Cette semaine, un épisode spécial questions et suggestions des auditeurs. On explique comment faire de la photo en noir et blanc et on teste le Sony A6000. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 71. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette.
Hey, salut Stéphane.
Et de Christian Jarry via Skype.
Eh oui, salut Stéphane.
Bon, enfin l'épisode 71 après plusieurs semaines de retard à cause de tellement
de choses. Comment qu'on pourrait dire ça? T'as été malade.
Christian a été malade, ouais. J'ai été malade à nouveau,
ouais.
Christian est toujours pas rétabli.
Oui, c'est ça.
Non, c'est la joie et l'allégresse, franchement. Vive les enfants, vive la famille.
Oui, vive le printemps au Québec où tous les microbes sortent et les virus. François s'en est bien tiré, hein, malgré tout.
Oui, ben moi, j'ai eu un épisode d'à peu près un mois et demi sur le derrière, je dirais, avec en enfilant 2-3 trucs. De suite, là, ça s'est tout fait d'une shot, puis c'était entre 2 épisodes, fait que
bon,
ça a bien passé dans mon cas. Puis il faut dire que je suis fait fort aussi, là, durant toute modestie.
Oui, c'est pour ça que ça dure un mois et demi tes trucs.
Oui, moi c'est tout dans un tas, puis c'est réglé.
Ah, ok, parfait. Eh messieurs, qu'avez-vous fait côté photo récemment? Ben récemment, hein, ça commence à être assez large, comme ça fait plus d'un mois qu'on s'est vu.
Dans mon cas, je me suis servi de mon 7D. Tu sais, je m'étais dit qu'il faudrait que je me serve de mon 7D.
Ben, bravo.
Ben, merci. Je m'en suis servi pour faire de la photo d'épicerie. En fait, pour un corporatif.
OK.
Et de la vidéo en même temps.
Ouais, parce que je t'imaginais mal chez Metro, IGA ou avec ton 7D en train de... Non.
Ouais, ouais. Mais c'était la vidéo corporative que j'ai fait, ajoutée avec des photos aussi.
Okay.
Prise de photos pour le site web de l'endroit. Fait que je me suis servi de la même lumière puis que mon setup vidéo, tu sais, pour faire ça. Puis, tu sais, regarde, c'est rien de nouveau, mais j'étais content. Je me disais, hey, avec un appareil, on peut faire les deux. C'est, la résolution est bonne dans les deux cas. Ce qui n'était pas le cas avant, tu sais. Fait que, bon, ça fait longtemps, je le sais, mais des fois, c'est bon de réaliser comment la technologie a nous emmené en quelque part. Mais je n'irai pas dans ce côté-là très qui pourrait nous emmener loin. Fait que c'est ça que j'ai fait dernièrement. J'ai fait un petit vidéo corporatif pour une épicerie dans le coin de Montréal.
Parfait. Christian, toi, de ton côté, t'as fait quoi récemment?
Ben, moi, j'ai participé, je suis allé voir la 400e des Mystérieux Étonnants.
Oui, moi aussi.
Et j'en ai profité pour prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos.
Mm-hmm.
Et de me rendre compte que mon appareil photo me frustre de plus en plus, mais disons que bon.
Oui, mais il faisait noir ce soir-là.
Hey, ça n'a aucun bon sens, c'était pas évident. Là. Je ne voulais pas prendre de photos avec flash, là, fait que mettons que c'était pas facile.
Ouais.
J'ai réussi à faire des résultats quand même assez bons. Je suis assez satisfait, sincèrement.
Mm-hmm.
Il y a un peu de bruit, mais bon, tu sais, à un moment donné, il faut... Je regardais l'âge de mon appareil photo, puis je me disais, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, quand ça fait 5 ans, je pense qu'il est sorti, là, disons que elle se débrouille pas si mal, mais elle monte son âge,
Ouais.
Là, disons que ça commence à me démanger.
Pourquoi tu voulais pas prendre de flash? Question comme ça.
Ben parce que c'est comme c'était live, comme il y avait du monde, je voulais pas déranger les gens, puis il faisait vraiment noir.
Ok, tu l'as pas brisé, briser l'atmosphère.
François, t'es déjà allé, c'est au Brewpub Brouhaha.
Oui. Donc, non, mais je me demandais.
Si, puis si dès qu'il y a un flash, t'illumines à peu près toute la salle.
Ah, okay.
Là, donc c'est pas.
C'est ça. Fait que je voulais pas y aller avec cette méthode-là. Je voulais y aller avec J'ai essayé un peu avec la 85 mm, ce qui était quand même pas si mal, mais. Le problème, c'était qu'il fallait que ça a été bon pour les plans, les gros plans que je voulais faire des gens, tout ça, mais si je voulais prendre des photos un petit peu plus larges, là, c'est là que ça commençait à devenir un problème. Là. Fait que,
mais tu vois, moi, je trouve que nos photos se complétaient bien parce que toi, tu as fait beaucoup de gros plans.
Ouais.
Moi, j'avais une 55 mm en full frame, en plein capteur. Donc, moi, c'était vraiment plus des photos d'ensemble. Je prenais la table au complet avec tous les intervenants. Je prenais la salle au complet, ben, une bonne partie de la salle. Mais toi, tu allais chercher vraiment les visages des gens, tout ça. Donc, ça a vraiment fait une belle complémentarité, je trouve.
C'est sûr, c'est sûr.
Teamwork.
Je suis content.
Parfait. Ben, de mon côté, évidemment, ben, j'étais aussi à la 400e avec Christian. Mm-hmm. Donc, non, je suis bien content. Mes photos ont bien sorti. Et ce que j'ai fait comme photo aussi, il y a quelques semaines, j'étais à la conférence de Steve Wozniak à la Place des Arts. C'était assez intéressant. Et j'avais avec moi le fameux Sony A6000. Quelle merveilleuse occasion de faire un test. J'avais non seulement mon A7, j'avais mon objectif 70-200, mais là, j'avais le A6000 avec le facteur de rognage de 1.6. Donc, ma 200 mm tombait à 320 mm et c'était parfait parce que j'étais loin, j'étais au balcon, l'espèce de mezzanine. Même, il y a certaines photos que j'ai rognées un tout petit peu, que j'ai recadrées parce que je voulais que ça soit plus serré un peu comme cadrage. Là, c'était... Donc, mais le... j'en reparlerai tout à l'heure, là. Impressionnant, le petit A6000.
Oui, puis wow. Moi, je parle, au nom de ceux qui ont 20 ans, là, une vingtaine d'années, peut-être 25 ans, et qui savent pas, parce qu'il y en a qui savent c'est qui, mais qui est Steve Wozniak, oui. Mon cher Stéphane?
Et c'est tout un personnage. C'est un des cofondateurs d'Apple avec Steve Jobs, évidemment. Et maintenant, ben, il fait des conférences. Puis là, c'était une conférence auprès de la Chambre de commerce de Montréal. Et il parlait de... des opportunités d'affaires ou de les gens lui posaient des questions. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir? Ça serait quoi une nouvelle technologie intéressante? Des choses comme ça. Donc, c'était intéressant d'avoir son point de vue. Moi, je me trouvais vraiment chanceux de pouvoir assister à ça. J'ai publié un article aussi avec quelques photos. Là. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode.
Ouais.
C'est à voir. J'ai fait un petit résumé de la conférence aussi.
Ouais, ça va l'air intéressant. Moi, c'est plus... Oui. C'était une question... c'était quand même pas donné, j'ai cru voir, quand même, pour assister. Là, c'était pas...
Ouais, ben, j'aurais peut-être pas payé pour aller la voir, là, c'est parce ça. Que, tu sais, ça me concernait pas nécessairement directement, mais de me faire inviter comme ça, si gentiment, je ne pouvais refuser.
Ouais, c'est ça. Il y a des affaires, des fois, de même, que c'est toujours plaisant quand t'as l'invitation.
Puis là, quand tu demandes, est-ce que je peux prendre des photos? Oui. Attends, je vais te montrer mon objectif que je pense apporter. Puis, oh oui, pas de problème. OK.
Let's go.
Oh oui, c'est un peu gênant au début parce que t'es comme assis au milieu de tout le monde. Mais tout le monde, c'est des geeks ou des gens qui aiment la technologie et tout ça. Donc, il n'y a personne qui m'a regardé de travers parce que je prenais des photos. Et d'ailleurs...
Ben, tu sais, t'étais là en reportage aussi, là.
Ouais, mais j'étais pas là comme photographe, en fait. J'étais assis dans la salle et je prenais des photos à partir du balcon, là.
Ouais, ouais.
C'était vraiment ça. Donc, puis avec le canon, là, la 200 mm, puis heureusement, le déclencheur, l'obturateur de l'A6000 est un peu plus silencieux que celui de l'A7. Donc, c'est qu'il y avait plusieurs avantages à avoir l'A6000, donc... parce que souvent... on reçoit des appareils pour tester, puis on n'a pas toujours des occasions. Puis là, on se dit, ben, je vais encore aller au parc, au coin de la rue. Mais là, quand on a des occasions spéciales comme ça, ou comme la 400e, les mystérieux, ben, c'est fantastique. C'est idéal pour tester un appareil.
Mmh. Ouais, c'est ça. Ça te permet d'utiliser bien comme il faut ses forces, dans le fond. Là.
Ouais.
J'ai hâte que tu nous en parles un peu plus, ça m'intrigue.
Mm-hmm.
Surtout que, tu sais, je disais que mon appareil, dans le fond, il commence à me frustrer, c'est par l'âge, mais c'est quand tu regardes qu'est-ce qu'on est capable de faire maintenant avec des petits appareils, la performance. Quand je disais que l'ISO sur mon petit Sony est meilleur que celui sur ma 7D, c'est pas mineur, là. C'est pour ça que c'est tentant, tu sais.
C'est ça. Bien, écoute bien tout à l'heure et laisse-toi tenter. On va passer un petit bloc nouvelle. Christian, t'avais une nouvelle, toi. GoPro va avoir de la compétition.
Ouais. C'est pas la première fois qu'on entend ça. GoPro va avoir de la compétition, mais cette fois-ci, bon. En partant, j'ai fait bon. Des Chinois qui décident de faire une GoPro bas de gamme. Sur le coup, j'ai failli passer à un autre appel. Mais j'ai lu quand même. J'ai regardé pour le fun qu'est-ce qu'il disait. Puis c'est quand on commence à lire vraiment qu'est-ce que c'est, ça fait rêver, je dirais.
Mm-hmm.
On parle d'une GoPro à 64 $ américains.
OK.
Ça, déjà, en partant, c'est quand même assez intéressant. Mais c'est parce qu'à 64$, elle est supérieure à la GoPro qui vaut quand même beaucoup plus cher. Ce qui est à dire qu'elle fait du 1080p à 60 images par seconde.
Mm-hmm.
Elle a elle peut prendre des photos à 16 mégapixels au lieu de 5. Puis okay. Elle a 64 gigs de mémoire interne.
Okay. Wow, OK.
Mieux encore, elle ne pèse que 72 grammes versus 111 pour l'aéro.
Mm-hmm.
Okay. Fait qu'elle est minuscule. C'est, je pense que, tu sais, beaucoup de monde me disait dans les commentaires, même si c'est pas hallucinant, pour le prix, ça vaut peut-être la peine de le prendre, le risque. Puis, c'est quand même un capteur qui est quand même assez bien réputé. Capteur, comment qu'il l'appelle? Désolé, je viens de revoir la petite chose.
Il n'y a pas de problème, mais ça me fait penser, justement, François parlait un jour de des GoPro qui étaient utilisées dans des tournages où elles allaient se faire détruire, écraser ou quoi que ce soit, ben ça coûte encore moins cher avec ça.
Ouais, mais à moi, à 64$, là, c'est pour faire un aparté dans ton dans ce que tu dis, Christian, je suis vraiment curieux de voir la qualité optique là, de la patente. Là. À ce prix-là, il faut qu'il y ait en quelque part, que ça soit il y ait des composantes de moins bonne qualité. Ça se peut pas, là, tu sais.
Ben, en fait, non. C'est parce que le problème avec la GoPro, c'est que tu payes pour la marque. Puis, dans ce cas-là, c'est un capteur XMOR, XMOR,
mm-hmm.
Il ferait même probablement du RAW, chose que la GoPro ferait même pas. Fait que...
Du RAW en vidéo ou en photo?
Au moins en photo, ouais. Peut-être même en vidéo. Ça, j'en doute personnellement, là, mais...
Ah ouais, mais ça, il y a un mode RAW en vidéo sur la GoPro.
Non, je sais que ça se peut, mais je doute qu'à 64$, ça fasse ça.
Mais encore là, j'ai aucune idée, là. Je spécule, là, mais GoPro, quand ils ont commencé, justement, là, on s'entend que peut-être qu'ils ont fait affaire avec un fournisseur, un fabricant chinois pour leur...
C'est clair, donc, c'est sûr.
L'autre... T'sais, est-ce que ça se peut que ce produit-là, justement, soit dérivé d'une première GoPro qui a été déjà fabriquée en Chine et que là, c'est à peu près la même construction, à part peut-être le boîtier, la solidité du boîtier ou quelque chose comme ça, j'ai aucune idée, mais...
Tu vois, moi, c'est plus là que j'ai plus peur. Ouais. Parce que personnellement, en général, les produits chinois de basse qualité que j'ai achetés, c'est pas... Ça fonctionnait comme c'était supposé. C'est souvent du côté de l'assemblage, je trouve, que c'est manquant.
Mm-hmm. Mm-hmm.
C'est le genre d'affaires qui ne durent pas très, très longtemps. Fait que moi, j'aurais plus peur que la petite caméra, tu sais, un coup, tu la laisses tomber, puis c'est fini, que de ne pas avoir de bonnes photos.
Ouais.
Mais bon, je sais pas. Ça m'intrigue, disons.
Mm-hmm. Écoute, à ce prix-là, ça vaut la peine de l'essayer. Ça pourrait faire une parfaite caméra B ou caméra C.
Oui.
Mais moi, je suis bien sceptique.
Ou que tu achètes à tes enfants pour que ça coûte pas trop cher.
Oui, oui, oui. Écoute, si tu achètes ça aux enfants, parfait. Tu en profites pour faire des tests en même temps. Mm. Mais moi, je prendrais pas de chance pour amener ça sur une production en leur disant « Hey, j'ai 3, 4, 5 GoPro, là, pas de problème. » moi, je suis bien sceptique.
Pas de l'avoir essayé, ça, c'est sûr. C'est clair, là.
Ouais, ouais.
Parfait. Ben, écoute, c'est à surveiller. Si quelqu'un parmi les auditeurs a déjà vu essayer ce produit-là, ça serait intéressant d'avoir un peu de retour là-dessus, un feedback. Donc,
c'est la Yi, en passant.
La Yi.
Y-I.
Puis quand elle fonctionne.
Action camera.
Puis quand elle fonctionne pas, tu la Yi. C'est ça.
Oh, un peu comme ta blague, on va le laïr.
On passe à la prochaine nouvelle.
Et sur ce commentaire, je dirais
yesh.
Ah, ce qu'on s'ennuyait de nos micros. Petite parenthèse, à partir de maintenant, ce ne sont que des suggestions des auditeurs donc, ou des questions, évidemment. Donc, on commence avec une petite nouvelle que j'ai vue passer sur mon fil Facebook. Maxime Soriol, qui partageait un article, c'est la compagnie Ricoh, donc, qui est propriétaire de Pentax maintenant, qui a retourné plus de 11 000 photos aux victimes du tsunami de 2011 au Japon. Donc, en fait, ils ont retrouvé au-dessus de 418 721 photos précisément.
OK, comment ils ont fait ça? Ils ont retrouvé des appareils?
Oui, ben en fait, il y a eu beaucoup d'organismes qui ont essayé de récupérer un paquet de trucs quand il y a eu le tsunami. Puis, éventuellement, c'est ça, ils ont essayé de restaurer ou de récupérer tout ça. Puis, au total, apparemment, Non, en fait, ça serait 90 000 photos qui ont été retournées à leur propriétaire. Donc, c'est quand même assez impressionnant de voir la quantité de photos qui ont pu être retrouvées. Là,
parce 11 ans plus tard.
Non, 4 ans plus tard.
Ah,
OK. Oui, parce que t'as celui de 2011, là, pas l'autre tsunami.
Moi, j'avais celui de 2004.
Ça. Mais quand même. Et bon, évidemment, c'est pas toutes des photos du tsunami, on s'entend bien. Là, mais les gens qui ont perdu leur appareil photo dans ce triste événement, ben, au moins, ils ont pu en récupérer peut-être quelques-unes ou plusieurs personnes ont peut-être pu récupérer presque la totalité de leurs images. Donc, c'est quand même une initiative intéressante de la part de Rico. Donc, voilà. Et toi, François, de ton côté, toi, tu avais une question.
Ouais. Oui, j'ai une question d'Ali qui nous demande, connaissez-vous la société de stockage qui s'appelle Ubiq? Et si oui, qu'en pensez-vous? Ben, moi, les gars, je ne connaissais pas ça, vous autres.
Connaissez-vous
moi non
plus. Ça? Non. Et ça s'écrit H-U-B-I-C.
Oui, c'est ça.
Ubiq.
Alors, c'est un service qui se compare à Dropbox. Là. C'est qui est vraiment la référence en termes de simplicité. Là. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus?
Mm-hmm.
Comme Dropbox est mis sur une quantité gratuite d'espace disque qu'on vous alloue, avec un prix si on veut décider d'avoir un petit peu plus de stockage, tu sais. Puis avec une certaine sécurité des fichiers. Bon. Ubiq, eux autres, ils visent sur la sécurité, justement, et non une certaine sécurité.
Okay.
Les serveurs sont en France. Fait qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas assujettis aux lois américaines, comme la NSA, par exemple, qui a le droit d'aller fouiller dans vos trucs. Là, quand t'es
intéressant, citoyen des gens partant.
Oui. Fait que si t'as des... Moi, dans mon cas, j'ai pas vraiment de fichiers sensibles.
Ouais, moi non.
À part mes facturations que je fais à des clients, t'sais. Puis encore là, je pense pas que ça soit très intéressant pour quelqu'un
qui
tombe
des trucs
dans mon Dropbox par hasard. Là, t'sais. Mais bon. Eux autres, ils visent beaucoup là-dessus. Il faut dire que c'est un truc qui n'existe pas ailleurs. Hein. Tu sais, quand tu pars à un nouveau service, tu peux dire « Hey, nous autres, on est plus sécuritaires que les autres. » Ça devient un point de vente. Là, oui. Bon. Ils sont quand même assez généreux en espace disque qu'ils donnent. C'est 25 gigabytes d'espace disque gratuit et synchronisé. Donc, c'est pas juste du storage, c'est aussi synchronisé avec son ordi.
Mm-hmm.
Et si on décide d'ajouter 1 euro par mois, ben on tombe à 100 gigabytes.
Ouais, c'est pas
gigabytes.
Cher.
Donc,
c'est vraiment pas cher, sincèrement. C'est respectable.
Oui, oui. Mais moi, tu vois, je regardais ça puis je me disais, moi, là, entre 25 et 100 gigabytes, ça ne change rien. T'sais. J'aimerais ça avoir 5 à 10 terabytes. Je pourrais faire un backup complet de tout ce que j'ai. Puis, ça existe, mais chez les Chinois.
Ouais.
On s'entend-tu que chez les Chinois...
Là, ils doivent fouiller un peu dans... Ben, en tout cas...
Ben, on peut assumer qu'ils le font, tu sais. Ils sont quand même assez bons dans le vol de technologie puis de tout ça.
Voyons donc, je vois pas ce que tu veux dire.
Ouais, c'est à l'inverse aussi, là, tu sais.
Oui, oui. Les Américains aussi, ils fouillent, là.
Absolument,
tu sais. C'est pas...
Fait que, bon, enfin, pour 1 euro par mois, tu te sens... gig par mois, c'est quand même vraiment bon pour l'espace. C'est 10 fois moins cher que Dropbox. Eux, ils te demandent 10$ pour 100 gigs, tu sais. Fait que ça vaut la peine. Si tu as besoin de 100 gigs et moins, évidemment. Puis on va aller plus loin. Si tu voudrais avoir 10 terabytes par mois, ça te coûterait 10 euros. Fait que là, bon, si je reviens à ce que je disais tantôt, ça reviendrait à peu près à 120 euros par année pour avoir 10 terabytes.
Ouais.
Ça serait intéressant. Moi, ça commence à me parler. Là, parce que c'est. Il y a vraiment du stock que tu ne veux pas perdre là, dans la vie. Bon, est-ce que tu ne veux pas perdre 10 terabytes? Non. Il y a des affaires que tu peux perdre.
Oui, c'est ça. Ton stock critique ne prend pas nécessairement 10 terabytes. À moins que tu gagnes ta vie, disons, en photo ou que tu as des vidéos à toi que tu as enregistrées qui valent une certaine somme monétaire ou sentimentale, une valeur sentimentale. Mais sinon, moi, si je considère, tu sais, j'ai quand même 4 terabytes en ce moment sur mon disque réseau. Puis là-dessus, ben, j'en ai peut-être 500-600 gigas qui sont des photos et vidéos que j'aimerais garder. Mais donc, c'est même pas 1 tera. Et le reste, tu as des documents de travail ou peu importe. Puis ça prend quelques centaines de mégas. Là.
Ouais.
C'est pas énorme. Là.
Ouais.
Et c'est comme d'habitude, je trouve. C'est toujours, par exemple... C'est un opposé ou l'autre. 100 gigs, c'est quand même pas mal. Là, c'est pas si mal. Moi, j'irais pour 1 tera. Mais là, c'est 10. T'sais, c'est tout l'un ou tout l'autre.
Oui, c'est ça.
Ouais, ouais.
Puis je trouve que tous les offres, que ce soit Dropbox, que ce soit c'est quoi SkyDrive, que Microsoft, c'est toujours la même chose. C'est toujours.
C'est OneDrive maintenant, mais oui. Ben, ils sont à 10 terabytes, là. Moi, j'ai 10 teraoctets sur OneDrive.
Pour combien?
C'est gratuit parce que je pense que j'ai un abonnement à Office.
Ouais, donc, c'est sûr, mais ça te prend l'abonnement à
Office. Donc, c'est pas gratuit.
Ben oui, mais j'ai besoin d'Office de toute façon, moi. Donc, ça me coûte rien, là, mon OneDrive. Puis, j'en ai besoin tant que j'ai mon entreprise. Donc,
ouais.
C'est un détail.
Mais c'est ça, là. Mais tu payes en bout de ligne, tu sais.
Ouais.
Eux te l'incluent parce que tu utilises leur service.
Oui.
Ce qui est fair, c'est parfait.
Ben oui, parce que Office coûte 99$ par année, je pense. 90-99$. Donc, en dollars canadiens, on parle de quoi? 60€ peut-être? Je sais pas.
Pas en ce moment. En ce moment, c'est 1,07 l'euro versus le dollar canadien. Bon là, on est au mois d'avril. Là, bon.
Mais quand même.
Oui, non, l'euro a perdu beaucoup de valeur par rapport au dollar canadien.
OK.
Mais je reviens avec Ubik et la question d'Ali, si on connaissait ça ou pas.
Alors non.
C'est bon pour toutes les plateformes Windows, Mac, Linux, puis plusieurs plateformes mobiles aussi, là, iOS, Android, Windows Phone 8, puis BlackBerry aussi. Fait que ça couvre pas mal tous les services. Tu sais. L'interface web, c'est comme Dropbox. Okay? On va se reconnaître, c'est facile à utiliser. Mais pas comme Dropbox, il n'y a pas de preview. Fait que c'est pas pratique. Tu sais, si tu veux juste vérifier un document sans le télécharger, juste voir ce que tu es rendu dans ton dossier, ben tu peux pas voir de preview. Il faut que tu es obligé de le télécharger. Ce qui est bon dans ce service-là, l'espace, comme je disais tantôt, c'est vraiment intéressant, l'espace qu'on peut avoir pour pas cher. La sécurité, les serveurs sont en France. Le prix, ça allait avec ce que je disais sur l'espace. Et il prend tous les types de fichiers et il n'y a pas de grosseur maximale par fichier. Alors qu'il y a plusieurs services qui disent, nous, c'est pas plus que tant de gigs pour un fichier. Tu peux pas uploader plus qu'un gig, mettons, pour un fichier.
Mm-hmm.
Lui, il n'y a pas de limite de grosseur de
fichier.
Tu n'es pas obligé de zipper un paquet d'affaires. T'sais.
Intéressant.
Oui. Qu'est-ce qui est moins bon? Ben, c'est ce que je disais un petit peu tantôt. L'interface n'est pas aussi bien évoluée que les autres joueurs, là, comme Drive, Dropbox, OneDrive. Évidemment, ils sont un petit peu moins longtemps dans la game. Fait que c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins évolués de ce côté-là. Alors, ça fait pas mal le tour de Ubik, qui est quand même intéressant à aller voir. Ubik.com.
Merci. De mon côté, une petite nouvelle que j'ai vue passer sur le site des Mystérieux Étonnants, justement, dont on parlait tout à l'heure. On sait qu'il y a quelques semaines, un mois environ, Leonard Nimoy, alias Monsieur Spock, est décédé. Eh bien, Monsieur Nimoy était photographe à ses heures.
Ouais.
Puis,
il est un bon photographe à
penser. Il a pris de superbes clichés, il avait des idées intéressantes. Je savais même pas qu'il était photographe. En tout cas, amateur ou peu importe, mais qui s'adonnait à la photographie. Donc, je vais mettre évidemment le lien dans les notes, mais vous pourrez aller voir quelques clichés que M. Spock a pris.
Ouais.
Mais bon, il n'y a pas de truc
extraterrestre.
Mais il y a quand même de belles images.
Ah.
François, de retour à toi, tu as reçu une question de JFO Ferguson sur Twitter qui demandait: comment faire de la photo en noir et blanc?
Écoute, c'est vraiment pas compliqué. On prend sa photo dans Lightroom, puis on désature. Ben non, c'est pas aussi facile que ça.
On peut faire ça, mais ça donne pas nécessairement le meilleur résultat.
Non, puis il y a toutes sortes de raisons pourquoi ça donne... On en a déjà parlé
Passé
de ça. Mais ce qu'on doit faire, OK? Là, je parle de trucs de base, OK? Je parle pas de quelque chose de très poussé, là. On commence par réutiliser le mode RAW de sa caméra. Si, évidemment, son appareil a le mode RAW.
Mm-hmm.
Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup plus de latitude dans les hautes et les basses lumières.
Ouais.
C'est hyper important, surtout dans le noir et blanc. Mm-hmm. Parce que là, on tombe en ce que je pourrais appeler en une dimension quasiment. Là, tellement que la couleur est importante dans une scène. Quand on tombe en noir et blanc, là, ça devient un autre game. Pourquoi?
C'est ça.
Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il faut penser lumière.
Voilà. J'ai failli te voler le punch, mais retenu.
Là, je te laisserai pas te laisser un mot.
Il faut toujours penser lumière.
C'est vrai.
Oui, mais encore
plus. C'est encore
plus
important en noir et blanc.
Je sais.
Il faut trouver des images avec beaucoup de contraste.
Mm-hmm.
Par exemple, si on veut photographier un pattern, une suite de trucs, quelque chose comme ça, il faut en choisir un qui n'est pas plein de couleurs.
Mm-hmm.
Pourquoi? Parce que là, on se trouve à tomber avec différentes teintes de gris.
Ouais,
tout ça peut être un peu...
Ça va atténuer les contrastes.
Oui, puis ça va changer la perception aussi de ce qu'on voit. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que c'est pas aussi simple que de désaturer. Il ne faut pas utiliser des ISO trop hauts sur son appareil photo parce que le bruit de l'image va sortir encore plus fort en noir et blanc qu'en couleur.
Sauf si c'est ce qu'on veut.
Oui, bon, mais ça, c'est souvent comme « Ah, c'est le look que je voulais. »
Oui, non, c'est... ça, si, ouais, quand c'est une excuse bidon, OK, ouais. Mais ça pourrait arriver qu'on veuille vraiment sortir un look un peu...
Absolument, pas si, grunge, si la là, démarche mais... qu'on veut faire au tout ouais. début, c'est ça, fine. Si tu dis à la toute fin que tu as travaillé ton image, puis tu te dis « Ah, ben, je dirais que c'est ça le look que je voulais
ouais. »,
ben, faut être vrai avec soi-même aussi,
oui.
tu sais. Bon, ça peut donner un beau résultat quand même, mm. tu sais. Mais bon, l'idée, c'est qu'au départ, n'utilisez pas de haut ISO si vous voulez que votre photo soit mm-hmm. bien représentée. Si on photographie un paysage, il faudrait trouver un endroit où les contrastes sont faciles à voir. Si on a un ton de couleur qui se voit partout dans le cadre, ben l'effet ne marchera pas. Là, je parle d'une photo prise à midi. Mm-hmm. Quand il n'y a pas d'ombre.
Ouais.
Ça va... Puis, dans un champ où il y a juste du gazon puis des collines vertes, mm-hmm. ça va être raté. Là,
ouais, ouais.
Ça prend vraiment plus de contraste que ça. Là. Contraste, c'est important. La lumière, ben, comme je disais, là, c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça qu'il faut shooter comme en couleur, d'ailleurs. C'est toujours plus intéressant le matin ou le soir, mm-hmm. ou fin d'après-midi, début de matinée. L'idée, c'est d'avoir des ombres qui sont créées par notre source de lumière qui est à l'extérieur, souvent le soleil. Ou si on est en studio à l'intérieur et qu'on utilise un flash, ben c'est d'utiliser son flash avec des angles différents de celui de l'objectif, évidemment.
Ouais. Là, ça peut devenir intéressant de faire un portrait avec vraiment un côté du visage plus illuminé que l'autre.
Oui.
Puis là, ça fait plus dramatique encore en noir et blanc.
Exactement. Donc, ça fait le tour de comment faire de la photo en noir et blanc. Et évidemment, c'est des trucs de base.
Mm-hmm.
J'espère que ça t'aide, mon cher JFO Ferguson.
Puis il y a des appareils même qui fournissent un mode noir et blanc. Moi, je l'ai déjà utilisé.
Ça, c'est l'équivalent dans la post-production d'enlever la couleur. Ça ne change rien à part qu'on voit l'effet dans le viseur.
C'est ça.
Ben, ça change de quoi, justement, par rapport à ça? Parce que ta photo, tu peux finalement voir rapidement est-ce que l'effet que je veux donner, est-ce que la luminosité est bonne, c'est mieux de le faire.
Oui, moi, je pense, c'est ça que je veux dire.
Moi, c'est ce que j'ai fait une fois. Je suis allé chez ma sœur, la porte d'entrée était vitrée, puis je trouvais que la lumière qui entrait par la vitre, justement, était intéressante. Puis je me suis mis en mode noir et blanc, carrément, puis j'ai photographié juste cette portion-là de la porte. Puis c'est une... Bon, j'ai pas fait beaucoup de photos noir et blanc, mais c'est une des photos noir et blanc que j'aime dans celle que j'ai faite parce que il y avait justement, tu sais, de l'ombre, de la lumière, puis il n'y avait pas d'artifice autour de ça. Là. C'était vraiment que ça. Donc, mais je l'ai prise, justement... en mode noir et blanc directement sur mon... Je crois que c'était sur mon Nexis. Là, j'avais pas mon A7 à ce moment-là, mais ça a donné un résultat intéressant. Donc oui, ouais. Si votre appareil le permet, ben pourquoi pas l'utiliser? Parce que justement, surtout au début, pour vous familiariser avec le noir et blanc, ben vous utilisez ce mode-là, vous allez voir tout de suite quel genre de résultat ça peut vous donner. Mais si vous prenez vos photos en RAW, évidemment, ben là, vous allez pouvoir retravailler vos photos un peu plus, puis... même à la limite, les remettre en couleur parce que l'appareil
oui.
enregistre tout pareil.
Exactement, oui.
Ouais, ça, c'est ça qui est le fun, par exemple, parce que je sais que des fois, tu sais, ça m'est arrivé de prendre quelques photos en noir et blanc, puis comme on dit, de le faire comme ça. Je vais avouer qu'avoir triché aussi à l'occasion et avoir pris des photos en couleur et les avoir converties en noir et blanc par
ben
après.
Oui.
Je pense qu'on l'a tous fait, qu'on va tous le
Absolument.
Faire.
Absolument.
Pourquoi pas? Parce que des fois, tu te dis... La photo est intéressante, mais je vais l'essayer en noir et blanc pour voir. Puis dans Lightroom, c'est un bouton. Évidemment, on peut ajuster après. Là, pour.
Ben c'est ça.
Je
veux dire, on peut jouer avec la luminosité. On peut jouer avec... on peut décider que telle couleur est un peu plus amoindrie que d'autres. Mmh. Fait que ça va changer toute la luminosité. C'est incroyable ce qu'on peut faire.
Mais non, la possibilité est là. Donc.
Il y a des tutoriels qui existent mmh. sur comment transformer une photo en couleur en noir et blanc.
Mmh.
Puis je vous le jure, ça passe par bien des étapes.
Ah oui, oh, c'est sûr.
Avec des channels, avec des niveaux de couleurs, on va saturer telle couleur, mais désaturer telle autre.
Oui.
Puis tu vas réussir à aller chercher quelque chose, mais c'est fastidieux. Là,
oui, mais déjà, à la limite, tu peux avoir une photo couleur inintéressante, puis tu as juste le fait de la transformer en noir et blanc dans Lightroom, tu te dis, waouh, le résultat est drôlement plus intéressant.
C'est vrai.
C'est, déjà là, sans faire de retouches ou à peu près, tu te dis, ben OK, parfait, c'est cette version-là que je vais travailler. Puis après ça, ben ça reste à la discrétion du photographe de retravailler sa photo en 5 minutes ou en une demi-heure, mais généralement, si tu as 18 étapes à utiliser pour retravailler ta photo, ben est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas. Ça dépend combien tu en as à retravailler, justement. Mais bon, moi, c'est ce que je pense. Quand si déjà le résultat plaît à l'œil, ben faut pas passer une demi-heure de plus juste pour quelques 5-10% de différence. Là, ça vaut peut-être pas la peine, tu sais. Alors voilà, merci François pour ces explications. Ça
fait plaisir.
Passons maintenant au test du Sony A6000 ou Alpha 6000 pour ceux qui préfèrent l'appellation Alpha. Donc, c'est un petit appareil qui est en fait le successeur de mon Nex 6 dont je vous parle depuis...
De ton Nex.
Oui, c'est le successeur de mon Nex. Quel jeu de mots. Ça sera ton tour, Christian, pour le prochain jeu de mots douteux.
Je vais passer mon tour.
Le rire de François est commandité par... Non, ça va. Donc, sérieusement, le Sony A6000 succède au Nex 6 et tire des éléments aussi du Nex 7. Donc, ils ont pris... Sony fait du bon travail. Je suis vendu à Sony depuis 2 ans, vous le savez.
Oui.
J'ai quitté Canon pour Sony. Mais... c'est qu'ils font du fichu de bon boulot. Ils apprennent... Oui, ils font des erreurs à l'occasion, oui. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai hâte qu'ils règlent l'erreur ou le problème des batteries.
Puis du zoom aussi quand tu regardes tes photos. Là.
Oui, ben ça, c'est un problème d'ergonomie qui serait facilement réglable dans un firmware, là, dans un micro-logiciel, mais je ne sais pas s'ils vont le faire. Mais enfin, sur l'A6000, ça fonctionne comme sur le Nex 6. Alors, j'étais en terrain connu et j'étais heureux de ce type de zoom-là, justement, quand tu visionnes les photos. Là, ça, ils l'ont gardé là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi sur la série A7, ils ont changé ça. C'est complètement absurde. Mais bon, l'A6000, c'est un appareil avec un capteur APS-C. Donc, comme le Canon 7D ou les Nikon 3000, 5000, 7000 et compagnie. Donc, étonnamment, c'est un appareil hybride, donc qui a un capteur similaire aux appareils semi-professionnels, disons, là, donc un très bon capteur de 24 mégapixels donc, et qui est très, très bien coté, là, un des meilleurs dans sa catégorie. Un boîtier vraiment compact, encore plus compact que celui du A7, donc c'est vraiment presque un... Ben, en fait, c'est à peine plus gros qu'un appareil photo compact. C'est juste qu'après, on va brancher un objectif. Mais côté boîtier, là, c'est vraiment petit, donc intéressant. Une rafale très rapide. Je pense que c'est 10 ou 11 images à la seconde. Oui. Par contre, il y a un petit bémol. C'est que si on fait une rafale en autofocus continu, l'autofocus a de la difficulté à suivre. Donc, mais on peut comprendre, là, c'est quand même assez impressionnant, là, 10 à 11 images secondes pour une rafale. Là. C'est assez rare qu'on va en plus utiliser l'autofocus continu. Donc, d'une image à l'autre, refaire la mise au point, là, ça commence à être exigeant pas mal. Il y a un très bon viseur, un viseur électronique similaire à ce qu'on retrouve sur l'A7, justement, et toute la gamme des appareils hybrides Sony. On a aussi, évidemment, un Wi-Fi très complet, beaucoup d'options pour le transfert d'images, pour le contrôle à distance, ces trucs-là. Et dans les points négatifs, le point majeur, je dirais, et c'est loin d'être un point majeur pour bien des gens, mais l'écran n'est pas tactile. Alors que, bon, dans plein de marques et de modèles différents, on commence à avoir les écrans tactiles, donc on s'habitue aussi, tout le monde qui a des smartphones et compagnie, ben on aime ça, pouvoir toucher à l'écran pour accéder rapidement à des fonctionnalités ou à des options de menu. Par contre, ben, comme sur la plupart des autres appareils, ben, il y a des boutons d'accès rapide, des boutons de raccourci, et il y a un bouton qui permet un accès à plusieurs fonctions en même temps. Donc, ça va quand même bien. Là.
C'est peut-être aussi une question de ne pas cannibaliser l'asset aussi, tu sais.
Ouais, ben qui n'est pas tactile non plus, vraiment.
Ah non, il l'est pas non plus. Ah, non. OK, tu vois.
Mais ça aurait pu. Quelqu'un aurait pu se dire, ben, j'ai pas besoin nécessairement d'un plein, tu sais, d'un full frame, d'un capteur plein format. Je vais y aller avec l'A6000 qui a encore beaucoup plus de fonctions que sur l'A7 ou l'A7R ou l'A7S. Mais non, c'est vraiment.
Question de prix. C'est probablement juste une question de prix.
Oui, parce que tu vois, on parle de quoi 600$ à peu près pour le boîtier. C'est vraiment pas cher, là. Et on parle d'un autofocus extrêmement rapide.
Mm-hmm.
Donc, oui, en rafale à 10-11 images secondes, ça peut arriver que ça travaille un peu, là. Mais pour prendre une photo, on se place, on fait de l'autofocus, c'est vraiment, vraiment rapide, là. C'est digne des... Je sais plus si c'est Fuji ou Olympus là, qui a des autofocus à 0,05 secondes.
Ils arrêtent pas de se compétitionner l'un l'autre. Je ne sais plus
c'est,
qui est...
Ben c'est peut-être les deux qui ont quelque chose de similaire, mais enfin, ça se rapproche étonnamment de ça et avec un capteur APS-C. Là, donc, c'est vraiment intéressant. Et bon, l'autre problème, ben, c'est le problème de tous les appareils Sony hybrides en ce moment, c'est la batterie qui va prendre peut-être un peu plus de clichés, celle-là. Peut-être 350-400 clichés. Apparemment qu'ils ont optimisé un paquet de trucs, là, justement, pour augmenter l'autonomie. Mais ça reste que 400 clichés, ben le Fujifilm X-T1 fait au moins ça. Et un paquet d'autres appareils là, qui vont faire 500-600 clichés là, avec une charge.
Mmh.
Donc, tu sais, j'ai juste à penser, quand je suis allé au Mystérieux Étonnant, j'ai pris ça.
Ouais, bon, 400 tu vois.
Photos, puis j'avais même pas chargé ma caméra au complet, puis j'avais mes deux batteries, puis...
Ben, c'est ça. Moi, j'ai toujours une batterie ou deux supplémentaires, parce que je me fais toujours avoir, mais je me souviens que quand j'avais mon Canon, je regardais même pas, avant de partir avec mon appareil, si la batterie était chargée ou non, je savais qu'il en restait assez pour mes besoins.
Non, je sais, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie tellement. Puis j'avoue que moi, personnellement, c'est peut-être la chose qui me manquerait le plus.
Puis sinon, dernier point négatif, si on peut dire, c'est que comme la plupart des appareils Sony, ça vient pas avec un chargeur externe. Donc, il faut charger par un câble USB, ce qui est plus long un peu. Mais bon, un chargeur, à la limite, ça se trouve là, entre peut-être 40$, 50$ maximum. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire de négatif. Et
c'est pas très majeur quand même.
Ben, c'est ça. La batterie, on n'apprend rien. C'est rien de nouveau.
Mm-hmm.
Le touchscreen, c'est vraiment pas tout le monde qui va avoir besoin de ça. Puis, ah, il n'y a pas de niveau électronique dans le viseur.
Mm-hmm.
Ah, OK. Curieux, ça.
OK, non, ouais. J'en veux pas d'abord.
C'est ça.
Autrement dit, il n'y a pas de...
Un showstopper.
Pas un gyroscope, mais il n'y a pas de senseur pour ça,
ouais.
Pour détecter le...
Y a pas, c'est ça, il n'y a pas de capteur de... Mm-hmm.
D'inclinaison,
d'assiette.
Ouais. Mais bon, moi, je l'ai sur l'assiette, puis je m'en sers pas vraiment. Ben, à l'occasion.
Ah, ben, tu vois, moi, je m'en suis servi pas mal sur ma 7D, du capteur, parce que il y a bien des situations que t'as pas de ligne d'horizon pour te fier.
Ouais.
Puis c'est important dans certaines lignes de fuite que ça soit bien droit. OK, tu peux l'arranger en post-production après. C'est vrai. Ouais. Mais il y a de l'information que tu vas perdre un petit peu dans les coins de l'image.
Oui, c'est ça.
Si
donc,
t'as cadré serré, t'es fait.
C'est ça. C'est ce que j'allais dire. À la limite, si t'as pas de niveau et tu veux absolument... À la limite, tu te dis, ben, je vais me débrouiller en post-production. Tu cadres un peu plus large. Oui,
à 24 mégapixels.
Ben, c'est ça. On s'entend que... Tu sais, c'est autant de mégapixels que le Sony A7. Donc, il y a beaucoup c'est de marge de manœuvre, là. Ouais, donc photographie aussi à ISO élevé, 1600, 3200, pas de problème, ça fonctionne très bien. Puis vous irez voir, comme j'ai dit dans les notes d'épisode, là, il y a le lien vers plusieurs de mes photos. Ça a tout été pris au moins, je pense, à ISO 1600 sur le Sony A6000. Donc ça sort très bien. Alors voilà, c'était le test. Moi, je recommande fortement ceux qui cherchent un appareil hybride, quand même assez compact. Il y a de plus en plus d'objectifs là, pour la série Alpha là, de Sony. Et ça, je vous reparlerai des objectifs pour la monture FE là, du A7 et compagnie. Il y a des nouveaux objectifs qui sont sortis, dont un objectif macro sur lequel j'ai l'œil. Les deux yeux, en fait.
Excellent.
Ouais.
Quand tu dis 600$, ça l'inclut-tu c'est un kit ou c'est juste l'appareil?
Non, je pense que c'est juste le boîtier, mais
juste le boîtier.
C'est vraiment Pour l'avoir essayé, là...
Les objectifs de cette catégorie-là sont un peu moins chers aussi en partant. Là,
oui. Ben, pour l'avoir essayé, pour ce boîtier-là, moi, je dis que vous en avez amplement pour votre argent. C'est un excellent rapport qualité-prix.
Bon, moi, je trouve ça très raisonnable. Sincèrement, ça a bien du bon sens.
D'ailleurs, messieurs, je vous rappellerai que je n'ai pas pris de résolution cette année concernant les appareils ou les objectifs.
Ah, ben non, hein? T'as appris de tes erreurs.
Non, c'était pas une erreur. C'était une bonne chose que...
Ben oui. Mais non, c'était juste drôle. Ça nous a fait du stock à rire, par exemple.
Oui. Alors, je vous annonce, ça fait 16 mois que j'ai pas changé de boîtier. Et ça va, oui, ça va pouvoir durer un certain temps encore parce que j'attends le Sony A9.
Ah oui?
Ouais.
Ah, OK.
Ouais, ouais. Je vous en reparlerai.
Rien de moins.
Bon.
François, encore de retour à toi, mais Christian, que fais-tu?
Ah, qu'est-ce que tu veux? Je suis un pauvre petit malade alors.
Non, ben ça va, il n'y a pas de problème. On t'épargne. François, il y avait une autre
question.
On est
content que tu sois avec nous quand même.
Oui, oui.
Ça me fait plaisir.
Oui, j'ai une question ici d'Alexandre Vallière-Lagacé. C'est un de nos...
On salue.
Oui, on salue parce que c'est un fidèle auditeur.
Oui, puis je le croise à l'occasion dans d'autres événements. Même moi.
Je le croise souvent dans le centre-ville.
Ah oui, c'est vrai, tu travailles pas loin.
Alexandre m'a envoyé un email en étant le spécialiste vidéo. Il y avait un problème vidéo. Sa caméra Mini DV, qui est d'une autre époque, oui. Disons-le. Mini DV, ça fait quand même un bail qu'on ne se sert plus de ça. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de vidéos qui se sont faites avec ce format-là.
Oui.
Et puis, lui, ben évidemment, il arrive une journée qui se dit j'ai besoin de transférer des trucs. En tout cas, j'imagine. Je me rappelle pas si c'est pour cette raison-là qu'il avait besoin de s'en servir, mais il y avait un problème de lecture sur une cassette. L'image était complètement pixelisée. Il m'a envoyé des captures d'écran pour me montrer c'était quoi, pour que je puisse essayer de décoder c'est quoi son problème. En voyant ça, je me suis rappelé, j'ai fouillé dans mes souvenirs de vieux, là, parce que j'ai utilisé beaucoup de VHS puis de bêta aussi dans le temps, dans les années fin 80, disons, là, tu sais, quand je commençais à être un peu au courant de tout ça. Puis que je commençais à faire mes premiers mariages aussi.
Oui, oui. Ben, quand on s'est connus, à peu près, hein, je pense.
Oui.
C'est à peu près à ce moment-là.
Fin 80. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais.
Donc, on est vieux.
Fait que là, je me suis dit, bon...
1880, hein, je pense.
Oui, oui.
Oui, oui, c'est ça.
C'est
oui.
Cela, oui. Puis, je me suis rappelé d'avoir vu ce problème-là de pixelisation d'image. Puis j'étais là, c'est quoi déjà ça? Puis là, je me suis dit, ah, les têtes vidéo... Quand, il me semble que quand ils sont sales, ça fait ce problème-là sur des mini-DV parce que le signal vidéo est enregistré de format numérique en mini-DV et non analogique comme VHS dans le temps. Ouais. Donc, quand les têtes étaient sales en VHS, ben l'image, elle se dégradait tout simplement. Ouais. Mais en version numérique, les pixels sont pas capables de se recomposer. Donc, j'ai fait... Hey, je pense que c'est ça. J'ai dit, Alexandre, essaie donc de nettoyer tes têtes vidéo avec de l'alcool et un Q-tips. Quelque chose de bien simple, qui n'est pas trop dangereux à faire, qui est très simple même.
Et là, on entend la musique de Mission Impossible.
Oui, 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 oui. Oui, c'est lui qui entendait ça, je pense, quand j'y ai dit ça. Il s'est dit, ah, OK, je vais essayer ça, parfait. Il me revient quelques temps après, puis il me dit, écoute, ça n'a pas fonctionné.
Oh.
Fait que j'ai dit, refais-le une deuxième fois.
Aha.
Et voilà, ça a fonctionné après la deuxième fois. Il m'a dit, écoute, ça a bien fonctionné. C'était un bon nettoyage que ça prenait à cet appareil-là. Évidemment, à force de faire rouler des cassettes, le ruban oxyde les têtes. Ouais. Il y a un paquet de trucs qui s'accumulent. Fait que ça peut prendre un deuxième nettoyage comme ça. Alors voilà, c'était de cette façon-là qu'on a réglé son problème. Objectif numérique à la rescousse. On est là pour vous.
Merci, monsieur SOS.
Monsieur SOS. C'est drôle que tu dises ça parce que je me rappelle, moi aussi, j'en avais une mini DV. Puis dans le temps, quand il voulait me vendre la fameuse garantie prolongée, tout ça, blablabla. Mais une des choses avec lesquelles elle venait, c'est que ça venait avec des nettoyages des têtes.
Oui, c'est vrai.
Pour tout le reste de sa vie. Okay. Fait que j'étais comme, ah. Intéressant, tu sais, de ce côté-là. Fait que, tu sais, j'aurais pas pensé, mais maintenant que tu le mentionnes, c'est bon, je l'ai encore, je l'utilise à l'occasion, mais si ça m'arrive...
La recette est ultra facile.
Ouais.
Ben oui.
Alcool pour nettoyer, qui est un... Je sais pas quel type d'alcool qu'on pourrait...
Ben, l'alcool à 80... isopropylique.
Oui, c'est ça, à 80% et plus.
70-80.
Ouais, et puis un Q-tips, puis on fait attention aux petites charpies de tissu que ça, que, ouais. Q-tips peut occasionner. Il y en a probablement qui sont faits pour ça. Mm-hmm. Mais en fait, on peut très bien se débrouiller avec un Q-tips normal. Il faut bien l'imbiber pour qu'il ne s'effiloche pas trop facilement.
Ben, ça peut paraître
idéalement pas un Q-tips de Lorama.
Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est ridicule, mais achetez la marque Q-tips.
Ouais.
Parce qu'ils sont de meilleure qualité. J'en ai testé plusieurs marques. La marque de Jean Coutu, personnel.
T'en as testé? Je serais curieux de savoir comment t'as testé ça.
Ben non, mais...
mais non.
J'en ai acheté plusieurs sortes dans ma vie.
Oui, oui,
et
oui.
Et j'ai remarqué que certaines, les marques populaires, si tu veux, s'effilochent plus facilement.
Ouais, c'est quand ils décollent pas carrément du bout de la tige.
Exactement.
Ouais.
Ou il y en a qui sont carrément raides, là, c'est dur. Je te dis, mon Dieu, il y en a à peu près pas. Ils ont peut-être fait un tour avec les petits filaments, puis c'est fini, là.
Il y en a quand t'as fini après, t'entends plus rien.
Oui, exact.
Puis donc, pour oh, je ne veux pas te couper, Steph.
Non, ça va. On est dans. On raconte comment je cure mes oreilles. Ah oui. C'est ça?
On est rendu
c'est
là.
C'est important
hein?
dans la vie.
On est rendu là.
Investissez dans vos cure-oreilles.
Non, mais pour revenir au nettoyage, parce que j'ai pas dit comment exactement, c'est difficile à dire au micro comme ça, mais si vous avez un truc comme ça à faire, je vous conseille d'aller juste le googler, d'aller voir sur YouTube. Il y a plein de how-to, de tutoriels comment faire ça. C'est comment nettoyer une tête vidéo.
Oui.
Et ainsi que d'autres composantes du système d'entraînement du ruban aussi.
Ne versez pas l'alcool directement sur la tête.
Ben, si vous le faites, shakez un petit peu aussi en même temps. Brassez ça. Non, mais c'est ça, voilà. Ça pourrait être la cause de votre pixelisation d'image sur votre DV ou autre format vidéo.
Mais c'est drôle que tu dis ça vite, vite. Je n'en parlerai pas longtemps, mais juste pour dire que maintenant, de plus en plus, c'est plus Google que je vais voir. C'est non, YouTube.
C'est YouTube, hein?
Oh ouais. Ça va plus vite, c'est généralement, que de regarder au complet c'est quoi marche à suivre. Tu vas sur YouTube, paf, ouais. T'as ta façon comment faire.
T'as raison, il y a vraiment toute une collection de vidéos qui existent maintenant. Puis j'ai carrément construit une salle de bain à partir de zéro avec plusieurs vidéos trouvées sur YouTube. Ouais. Plomberie, électricité, montage de murs, tout ça. Ouais. Il y a des trucs que je savais, d'autres que je savais pas. Écoute, ça.
Même chose pour changer mon lave-vaisselle. J'avais un truc dont j'étais pas tout à fait certain. Puis... Mais essayez pas ça pour la photo, ça fonctionne pas. Continuez de nous écouter.
Oui, c'est ça,
ouais. Non, ça c'est pas pareil.
Bon, ben merci François. Et moi j'ai reçu une suggestion de Sébastien Delors par email. Il me parle de quelqu'un qu'il connaît, je crois, un photographe italien de cosplay. Donc, je vous ai déjà parlé de cosplay au Comic-Con et tout ça, les gens qui se costument, les costumédiens ou les costumadiers, les deux vrais termes francophones. Donc, les gens qui se déguisent carrément en super-héros ou en personnages de manga, d'anime et compagnie.
Puis, on vient sûrement d'apprendre le mot au français du côté de l'Europe parce que c'est sûr qu'ils n'utilisent pas ces mots-là.
Non, ce sont des cosplayers. Oui, même ici, on dit des cosplayers et tout ça, mais les vrais mots, ce sont soit un costumadier ou un costumédien. Donc, c'est selon. Et ce photographe s'appelle Carmine Mauro d'Aprile.
Ah.
Et oui, mon beau-frère est italien, donc... non. Alors voilà, je vais mettre évidemment le lien vers son site. C'est un photographe qui s'amuse à photographier des gens costumés dans divers décors. Et il y a des décors très intéressants aussi, des costumes intéressants évidemment. Mais c'est bien beau, justement, moi au Comic-Con, quand je photographie les gens... Il y a du travail un peu à faire parce que le décor est vraiment pas beau, il y a des gens partout, donc là de prendre des gens et de les positionner dans un décor plus intéressant, que ce soit une forêt, un arbre, une portion de ville, peu importe, déjà là c'est beaucoup plus intéressant visuellement. Donc si je sais pas si vous vous adonnez à la costumade, bien
la costumade.
Ça peut vous inspirer. Hein? Non, mais on est un podcast, une émission de web radio où on apprend plein de termes francophones aussi. Alors voilà, Christian, maintenant tu peux sortir de ta torpeur et nous parler de la suggestion que toi t'as reçue.
Oui, une suggestion de Marin Dumont.
Fidèle auditeur et qui participait souvent aux défis photo. Les,
oui, je me rappelle.
Les défunts défis photo, malheureusement. Mm-hmm. Qui reviendront peut-être un jour. On verra.
Vous savez qu'est-ce que c'est les aspects ratios? Dans le fond, c'est quel est notre aspect si on veut une photo qui est en 4 par 3, en 16 par 9, etc. Mm-hmm. Mais si, comme moi, vous avez plusieurs appareils photo, et ça se peut que vous, vos appareils photo ne prennent pas toujours les mêmes aspects, ratios, etc., d'un appareil à l'autre, que ce soit votre téléphone, que ce soit, mettons, comme ma RX100 ou ma 7D, ils ont tous des formats un petit peu différents. Il peut arriver à l'occasion où ce qu'on voudrait, je veux une photo 4 par 3. Ben, passer au travers de toutes ces photos pour trouver la 4 par 3 n'est pas toujours ce qu'il y a de plus commode. Or, cette application-là, tout simplement appelée ARTI pour Aspect Ratio Tool for Image, un outil de l'aspect ratio pour les images, donc on va le traduire de même, te permet de faire la liste de tous les photos qui sont dans un répertoire et te dit quel est le ratio de chacune d'entre elles.
C'est drôle.
C'est drôle, mais ça peut avoir son utilité.
C'est le genre de petit truc très niché que quand tu as besoin de ça, tu es tellement content d'avoir un logiciel comme ça.
Exactement. Ouais. C'est en plein ça que je me disais.
C'est cool. Tu vois, pour l'instant, ça me dit absolument rien, mais le jour que je vais avoir besoin de ça, je vais faire comme « Calique, Christian, il en a parlé.
Ben, » ouais. Il te donne pas juste le ratio. Ben, il te donne le ratio, mais veut pas, il te donne évidemment la largeur et la hauteur. Fait que tu peux voir tout de suite une photo, mettons, qui est en 920 par 1080 ou des choses comme ça. Fait que ça, avec, ça a de son utilité
et par rapport à ça. Et ça te donne le ratio décimal, disons 1.33 au lieu de, tu sais, de 4 pour 3, là. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est intéressant.
Ah, ben c'est cool, ça.
Ben oui, alors merci, Monsieur Dumont. Et on va conclure l'épisode avec une... en fait, c'est pas une suggestion de l'ami Benoît Chamontin, mais c'est un article qu'il a publié sur son site geeksandcom.com. C'est Instagram qui a lancé l'application Layout. Layout, ça permet de combiner plusieurs photos en une seule, donc faire un petit montage photo.
Et puis, OK, j'avais remarqué des photos sur Instagram comme ça,
donc
dernièrement.
Ça simplifie beaucoup ce genre de truc-là, parce qu'avant, les gens le faisaient avec une application tierce. En fait, c'est aussi une application tierce, soit dit en passant.
Il y a eu un regain, tu sais.
Donc là, les gens disent « Ah, ben là, cette application-là fait ça, donc je vais m'en servir. » Et c'est tout simple, vous l'installez, ça demande l'accès à votre photothèque sur votre téléphone ou votre tablette, puis quoique prendre des photos avec une tablette, c'est mal. Donc,
je suis d'accord.
Donc après, disons-le, vous décidez du format, quelle position vous voulez mettre, quelle image, vous sélectionnez vos images et voilà, votre montage est fait. Après, vous pouvez glisser une image dans une autre position pour changer l'ordre, peu importe. C'est tout simple, c'est gratuit. Et voilà, donc, si vous voulez le lien pour plus d'informations, ça va être dans les notes d'épisode.
Comme toutes les autres informations qu'on vous donne tout au courant de l'émission.
Absolument. Alors voilà, messieurs, c'est tout. Merci beaucoup, François.
Hey, merci, Stéphane.
Merci, Christian.
Merci, Stéphane.
Merci, chers auditeurs, de votre patience et de votre compréhension face à nos petits problèmes de santé et compagnie.
On est humains après tout.
Et oui, on vient de vous le prouver.
Il paraît, en tout cas.
Mais nous sommes de retour. Et non, ce n'est pas un problème de motivation ou quoi que ce soit.
Non.
On est là.
Oui.
Et on est là pour rester. On veut se rendre au moins à la centième.
Ah oui, au moins.
Définitivement.
Donc, voilà. Prochain épisode, on va parler d'un paquet de trucs. Je vais vous faire le test du Nikon D750. Donc, je vous donne un petit spoiler, un petit avant-goût. Très bon appareil à suivre.
De mon côté, juste avant que tu conclues, Stéphane, moi, je vais vous parler d'un projet Kickstarter dont je vous ai parlé dans un... Il y a déjà plusieurs émissions.
Oui.
Mais qui est devenu un méga fail.
Oh!
Alors,
à suivre. Le sens du suspense. Alors voilà, pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire à podcast@objectifnumérique.com et comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Twitter au numérique, Facebook et Google+, Objectif numérique, la communauté photographe amateur au pluriel sur Google+, arrive à 6000 membres. C'est incroyable. Donc là, il va y avoir un appel à tous bientôt pour avoir des modérateurs. Donc si jamais vous êtes membre et que vous avez envie d'approuver de rejeter ou d'approuver certaines photos, parce que Google va en sélectionner certaines que l'algorithme croit que c'est pas nécessairement une véritable photo ou des trucs du genre, que ça peut être de la publicité camouflée. ça fait beaucoup de travail pour une seule personne. Donc, c'est ça. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main éventuellement. Donc, si ça vous intéresse, vous nous envoyez un email à podcast@objectifnumérique.com. Et d'ici le prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!